Vous écoutez, on lit pour vous.
Montréal devra tripler sa construction de logements pour retrouver l'abordabilité. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir. C'est à Montréal que le problème d'offre de logements est en voie de se dégrader le plus vite au Canada, constate la Société canadienne d'hypothèques et de logements, SCHL. Il faudrait tripler le rythme actuel de construction de nouveaux logements, ne serait-ce que pour retrouver le niveau d'abordabilité de 2019. Depuis la pandémie, c'est dans la grande région de Montréal que les coûts d'accession à la propriété, en fonction du revenu de la population, ont augmenté le plus rapidement parmi les grands centres urbains canadiens, rapporte la SCHL dans une nouvelle estimation dévoilée récemment. Au rythme où vont actuellement les choses, il devrait se construire 245 000 nouveaux logements par année d'ici 2035 au Canada, y estime-t-on. Or, il en faudrait presque 233 000 de plus par an pour atteindre une moyenne annuelle de 430 000 à 480 000 nouvelles habitations, seulement si l'on veut que le coût pour se loger revienne à ce qu'il était juste avant le début de pandémie de COVID et l'emballement des prix qui a suivi. Comme le déséquilibre entre l'offre et la demande a été encore plus prononcé au Québec et que la situation n'est pas en voie de se corriger, l'effort devra y être encore plus grand, a calculé la SCHL. Dans la grande région de Montréal, il se construira ainsi environ 23 300 nouveaux logements par an au cours des 10 prochaines années, alors qu'il en faudrait le triple, soit 72 000 en moyenne par année, pour y ramener l'abordabilité au niveau de 2019. Trois logements manquants sur cinq se trouveraient du côté de la propriété résidentielle, le reste s'observant dans le marché du logement locatif. Dans le reste du Québec, la construction prévue d'un nombre presque identique de 23 200 nouveaux logements devrait être suffisante pour y ramener le niveau d'abordabilité à ce qu'il était avant la pandémie, dit la SCHL. Toutefois, s'il fallait que Montréal ne parvienne pas à combler son propre écart entre l'offre et la demande, la situation risque de se compliquer ailleurs, les logements trop chers dans la métropole réduisant le flot de Québécois qui souhaitent venir s'y installer, créant, par le fait même, une pression supplémentaire sur la demande et les prix dans les autres villes et régions. Bien au-dessus du seuil d'abordabilité. On estime, en général, que pour être abordable, le prix des logements ne doit pas dépasser 30 % du revenu brut moyen des ménages. De 34 % à Montréal et de 24 % dans le reste du Québec en 2019, ce ratio d'abordabilité était rendu en 2024, respectivement, à 48 % et 34 %. D'abord concentré à Toronto et à Vancouver, le problème d'abordabilité du logement y reste plus aigu qu'ailleurs au Canada, où il s'est désormais étendu. Déjà bien au-dessus du seuil de 30 % avant la pandémie, à raison de 59 % à Toronto et 71 % à Vancouver, le ratio d'abordabilité menace désormais d'y atteindre respectivement 74 % et 99 % d'ici 10 ans, si la tendance actuelle n'est pas corrigée. Si rien ne change, le prix moyen d'une habitation continuera ainsi d'augmenter partout au Canada. Il pourrait passer, à Montréal, de 616 000 $ à l'automne 2024 à plus de 956 000 $ dans 10 ans et de plus de 400 000 à presque 560 000 dans le reste du Québec, estime la SCHL. Un coup de barre qui permettrait de ramener le niveau d'abordabilité à ce qu'il était en 2019 viendrait freiner cette escalade des prix, mais ne se traduirait généralement pas par des pertes importantes de valeur, assurent les experts de la Société d'État. Graduel, le rattrapage de l'offre par rapport à la demande réduirait surtout l'encouragement à la spéculation et la propension des ménages à concentrer leurs investissements dans l'immobilier. Le prix moyen des habitations passerait plutôt ainsi de 616 000 à 671 000 $, plus de 8,9 % à Montréal, et de 400 000 à 517 000 $, plus de 29 % ailleurs au Québec. Quant au loyer, il serait en moyenne de 6,1 % inférieur à Montréal et de 1,9 % plus bas dans le reste du Québec à ce qu'ils auraient été autrement. Dans son rapport, la SCHL se penche sur les besoins de l'ensemble de la population canadienne et pas seulement les ménages les plus modestes qui sont souvent les premières victimes de la pénurie de logements. De façon générale, explique-t-elle, le prix inabordable des logements nuit à la productivité de l'économie canadienne en minant la capacité d'attirer des travailleurs qualifiés. Les jeunes sont peu enclins à rester dans nos grandes villes, en partie à cause du manque de logements qui sont à leur portée. De plus, le niveau très élevé d'endettement des ménages canadiens les rend vulnérables en cas de crise économique mondiale. La promesse de Carney. La cible de la SCHL de 430 000 à 480 000 nouvelles habitations par année au Canada s'approche de la promesse électorale des libéraux de Mark Carney de faire passer la construction résidentielle au rythme jamais atteint de 500 000 nouveaux logements par année, grâce notamment à une aide de 25 milliards et à un assouplissement des règles. Dans son rapport, la SCHL explique avoir choisi de mettre l'accent sur un retour d'ici 10 ans au niveau d'abordabilité observé en 2019, parce que l'escalade des prix depuis la pandémie a été telle qu'il n'est plus réaliste d'espérer en faire plus ou plus vite. Elle note, par exemple, qu'il faut en moyenne de 3 à 5 ans entre le début d'un projet de construction de logement et sa réalisation, et même de 6 à 8 ans pour une tour de logement. Il est possible de doubler le rythme de la construction résidentielle au Canada, mais pas sans une main-d'œuvre beaucoup plus nombreuse et modernisée. Il faudra aussi une hausse des investissements privés, ainsi qu'une réduction de la réglementation, des délais et des coûts d'aménagement. Ce rythme de construction nécessitera aussi d'importantes innovations dans les technologies de construction et une plus grande productivité de la main-d'œuvre, a déclaré dans un communiqué Aled Ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL. C'était « Montréal devra tripler sa construction de logements pour retrouver l'abordabilité. Un texte d'Éric Desrosiers, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir.
Une juge bloque les efforts de Trump contre les étudiants étrangers d'Harvard. Un texte de Colin Binkley, de la presse canadienne, paru le 20 juin 2025 dans Le Devoir. Une juge fédérale a bloqué les efforts du gouvernement Trump visant à empêcher l'université Harvard d'accueillir des étudiants étrangers. Une ordonnance de la juge de district américaine Alison Burrow préserve la capacité de Harvard à accueillir des étudiants étrangers en attendant le jugement de l'affaire. Il s'agit d'une nouvelle victoire pour l'établissement qui s'oppose à de multiples sanctions gouvernementales dans le cadre d'une bataille avec la Maison-Blanche. En mai 2025, Harvard a intenté une action en justice contre le ministère de la Sécurité intérieure après que l'agence lui eut retiré sa certification pour accueillir des étudiants étrangers et délivrer les documents nécessaires à l'obtention de leur visa. Cette mesure aurait contraint les quelque 7000 étudiants étrangers de Harvard à se faire transférer ou à risquer de se trouver en situation irrégulière aux États-Unis. Les nouveaux étudiants étrangers n'auraient pas été autorisés à s'inscrire à Harvard. L'université a qualifié cette mesure de représailles illégales pour avoir rejeté les demandes de la Maison-Blanche de réformer les politiques de Harvard concernant les manifestations sur le campus, les admissions, l'embauche et d'autres questions. Madame Burroughs a temporairement suspendu l'action quelques heures après l'action en justice de Harvard. Moins de 2 semaines plus tard, début juin, Donald Trump a décidé d'interdire l'entrée aux États-Unis aux étudiants étrangers souhaitant intégrer Harvard, invoquant une autre justification juridique. Harvard a contesté cette décision et la juge Burroughs a également temporairement bloqué cette initiative. Donald Trump est en guerre avec Harvard depuis des mois après que l'université eut rejeté une série de demandes gouvernementales visant à répondre aux plaintes des conservateurs, selon lesquelles l'université serait devenue trop libérale et tolérer le harcèlement contre les Juifs. Les responsables de Donald Trump ont réduit de plus de 2,6 milliards de dollars américains les subventions de recherche, mis fin aux contrats fédéraux et menacé de révoquer son statut d'exonération fiscale. En avril 2025, la secrétaire à la Sécurité intérieure, Christine Noem, a exigé que Harvard lui remette une multitude de documents relatifs à toute activité dangereuse ou illégale d'étudiants étrangers. Harvard affirme s'être conformé à cette demande, mais Madame Noem a expliqué que la réponse était insuffisante et a révoqué le 22 mai 2025 la certification de Harvard au programme d'échange d'étudiants et de visiteurs. Cette sanction a immédiatement désavantagé Harvard dans ses efforts pour attirer les meilleurs étudiants du monde, a déclaré l'université dans sa plainte, et a porté atteinte à sa réputation de pôle de recherche mondial. Sans ses étudiants étrangers, Harvard n'est plus Harvard, affirme la plainte. Cette action aurait bouleversé certaines écoles doctorales qui recrutent massivement à l'étranger. Certaines d'entre elles, dont 2 universités de Hong Kong, ont rapidement invité des étudiants de Harvard. Le président de Harvard, Alan Garber, a précédemment déclaré que l'université avait mis en place des mesures pour lutter contre l'antisémitisme. Mais Harvard, a-t-il affirmé, ne dérogera pas à ses principes fondamentaux protégés par la loi, même après avoir reçu des ultimatums fédéraux. C'était une juge bloque les efforts de Trump contre les étudiants étrangers d'Harvard, un texte de Colin Binkley de la presse canadienne, paru le 20 juin 2025 dans Le Devoir.
Le gouvernement Trump congédie tous les experts d'un important panel sur les vaccins, un texte d'Issam Ahmed de l'agence France-Presse paru le 9 juin 2025 dans Le Devoir. Le ministre de la Santé américain Robert Kennedy Jr. a congédié la totalité des 17 experts d'un important groupe consultatif sur les vaccins, les accusant de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Nouvelle illustration de l'orientation vaccino-sceptique de l'administration du président Donald Trump. Cette décision de renvoyer les experts du comité consultatif sur les pratiques de vaccination a été annoncée dans une tribune au Wall Street Journal ainsi que dans un communiqué. Robert Kennedy Jr., RFK, estime que cette révision de la composition du panel est essentielle pour rétablir la confiance du public. Il accuse le groupe d'experts d'être compromis par des liens financiers avec des sociétés pharmaceutiques. Aujourd'hui, nous donnons la priorité au rétablissement de la confiance du public plutôt qu'à un quelconque programme pro ou anti-vaccin, a écrit dans un communiqué M. Kennedy, notoirement sceptique sur l'efficacité des vaccins. Le public doit savoir que les recommandations de nos agences de santé sont fondées sur des données scientifiques impartiales, évaluées dans le cadre d'un processus transparent et à l'abri des conflits d'intérêts, a-t-il ajouté. Alimenter la méfiance. Dans sa tribune, RFK affirme que le groupe d'experts est miné par des conflits d'intérêts persistants et qu'il n'est devenu qu'une simple chambre d'enregistrement pour n'importe quel vaccin. Il indique que de nouveaux membres vont remplacer les experts sortants. Ces derniers avaient été nommés en raison de leur expertise reconnue et ils étaient normalement tenus de divulguer en amont d'éventuels conflits d'intérêts. Cette décision a été accueillie avec inquiétude par Paul Offit, pédiatre et expert en virologie et en immunologie, qui a justement siégé dans ce panel de 1998 à 2003. RFK pense que quiconque parle en bien des vaccins, ou les recommande, doit être profondément dans la poche de l'industrie, a déclaré M. Offit à l'agence France-Presse. Il règle un problème qui n'existe pas. Comment ce pays peut-il être sûr que les personnes que RFK Jr. souhaite voir siéger au comité consultatif sur les pratiques de vaccination sont des personnes dignes de confiance? S'est encore interrogé M. Offit. Nous assistons à une escalade des efforts déployés par le gouvernement pour réduire au silence l'expertise médicale indépendante et alimenter la méfiance à l'égard des vaccins qui sauvent des vies, a ajouté Susan Cressley, présidente de l'Académie américaine de pédiatrie, dans un communiqué. La prochaine réunion du panel est prévue du 25 au 27 juin au siège des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, CDC, à Atlanta. Mesure imprudente. Renvoyer des experts qui ont passé leur vie à protéger les enfants contre des maladies mortelles n'est pas une réforme, c'est une mesure imprudente, radicale et ancrée dans les théories conspirationnistes, pas la science, s'est indigné dans un communiqué le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer. Balayer un groupe entier d'experts sur les vaccins ne renforce pas la confiance, mais la brise. Le sénateur de gauche Bernie Sanders a dressé le même constat. Alors que nous devrions renforcer la confiance dans la science et élargir l'accès aux soins de santé, ce gouvernement fait exactement le contraire. Il s'agit de la poursuite de la dangereuse guerre de Trump et Kennedy contre la science. Cela ne peut pas durer, a-t-il dénoncé dans un communiqué. RFK promu depuis deux décennies la désinformation sur les vaccins, notamment l'affirmation largement démentie selon laquelle le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, ROR, est à l'origine de cas d'autisme. Depuis son entrée en fonction, il a réduit l'accès au vaccin contre la COVID-19 et a continué à semer le doute sur le vaccin ROR, alors même que les États-Unis connaissent leur pire épidémie de rougeole depuis des années, avec 3 décès signalés et plus de 1100 cas recensés. Un chiffre qui, selon les experts, pourrait largement sous-estimer le véritable bilan. C'était « Le gouvernement Trump congédie tous les experts d'un important panel sur les vaccins », un texte d'Issam Ahmed de l'agence France-Presse paru le 9 juin 2025 dans Le Devoir.
Le Peretz Center, un carrefour de la culture juive laïque à Vancouver. Un texte de Lynn Weaver, paru le 27 mai 2025 dans La Source. Le mois de mai est consacré chaque année à la célébration de l'héritage juif partout au Canada. Et à Vancouver, c'est le Peretz Center qui incarne depuis 80 ans le poumon de la culture juive laïque. Entretien avec Donna Becker, administratrice du centre, une ardente gardienne de ce haut lieu de la présence culturelle juive sur les bords du Pacifique. Tranche de vie. Tout a commencé après la Seconde Guerre mondiale, après l'Holocauste. Le Peretz Center pour la culture juive laïque a été fondé en 1945 dans le but d'établir et de diriger une école offrant aux étudiants de tous âges une éducation culturelle juive moderne et progressiste. Avec ce qui s'était passé en Europe, les centres culturels du judaïsme européen avaient en quelque sorte disparu, souligne Donna Becker. Selon l'administratrice du centre, beaucoup de juifs traditionnalistes sont allés bâtir leur centre culturel en Israël. Mais la communauté juive de Vancouver voulait que leurs enfants connaissent le yiddish, qu'ils sachent à quoi ressemblait la vie juive en Europe, qu'ils soient reliés aux racines européennes, et c'est pour cela que le Peretz Center a ouvert ses portes à Vancouver. Il s'agissait d'une coalition qui ne reposait sur aucune obédience politique, car les politiques à ce moment-là se situaient aux deux extrémités de l'échiquier, poursuit-elle. La présence des Canadiens juifs. Les Canadiens juifs forment la 4e plus grande communauté juive du monde et la 2e plus grande en Amérique du Nord. Le recensement de Statistique Canada de 2001 indique qu'il y a 329 995 juifs vivant au pays. Par contre, il n'y a pas de données précises sur le nombre exact de juifs vivant à Vancouver. Il est difficile d'obtenir des chiffres précis pour les communautés religieuses, mais on estime qu'environ 55 000 juifs vivent à Vancouver, ce qui représente environ 1,2% de la population totale de la ville. Après la Seconde Guerre mondiale, le Canada a changé sa politique d'immigration et 40 000 survivants de la Shoah, l'Holocauste, sont venus s'établir ici à la fin des années 1940. Plus tard, dans les années 1950, plusieurs milliers de Juifs ont immigré du Maghreb, en particulier des Juifs marocains pour venir s'établir à Montréal, où la langue française leur permettait de s'adapter plus facilement. En tout, la population juive d'après-guerre est passée de 170 000 à 260 000 personnes. Plus intégrée à la vie canadienne qu'auparavant, son statut de minorité est officiellement valorisé par la politique canadienne du multiculturalisme dans les années 1970 sous le règne de Pierre-Elliott Trudeau. Les activités du Centre Peretz aujourd'hui. Le Centre Peretz organise des cours, des conférences, des expositions, des concerts, des célébrations de fêtes et des rassemblements afin d'enseigner et de faire avancer la cause de l'apprentissage, de la culture et de l'éducation juive progressiste et moderne, ainsi que de la langue yiddish. Le centre accueille toutes les personnes de culture, de croyances, de sexe et d'orientation sexuelle différentes, précise Donna Becker. Nous avons deux mandats. Tout d'abord, la promotion de la langue et de la culture yiddish. Le deuxième volet du mandat est de fournir des occasions éducatives et sociales, mais surtout éducatives, d'avoir un lieu pour être juif culturellement sans religion, parce que nous sommes totalement une organisation laïque et nous célébrons les fêtes juives, mais d'une manière laïque, fait-elle remarquer. Les programmes. Quelques exemples de programmes offerts par le centre, dont le Shmuz est une variation yiddish du nom hébreu Samuel. Leçon de conversation en yiddish en ligne. Le Zumershul, un module de 2 semaines pour les jeunes de 8 à 15 ans pour apprendre et explorer les formes juives d'expression artistique. En plus de groupes de lecture hebdomadaires dispensés en ligne intitulés « Exploring Jewish Writers ». Les fêtes traditionnelles. Le centre célèbre également les fêtes traditionnelles juives telles que le Friday Secular Humanist Shabbos, de Rosh Hashanah, ainsi que l'allumage traditionnel de bougies à Yom Kippour. Et ce n'est pas tout. Les membres peuvent se joindre à la chorale et prendre part à la récitation de contes folkloriques. Par ailleurs, la beauté de l'édifice vaut le détour avec ses magnifiques vitraux qui apparemment sont les seuls exemplaires yiddish que l'on connaisse. La Société du film juif de Vancouver. Il est à noter que dans l'enceinte du Peretz Center se trouve la Société du film juif de Vancouver, Vancouver Jewish Film Society, qui loue un étage du centre et qui présente un festival annuel de films juifs en provenance de partout dans le monde. Il s'agit du plus ancien festival du film juif au Canada. Plusieurs autres projections sont organisées tout au long de l'année. Le Centre du film juif de Vancouver pratique l'inclusion et maintient un environnement de travail et un espace de présentation respectueux des bénévoles, du personnel et des invités. Tous les membres sont traités en toute équité et la différence est reconnue et valorisée. L'histoire culturelle juive est une mosaïque riche et plurielle qui englobe traditions religieuses, œuvres littéraires, formes d'art et pratiques sociales qui ont évolué au fil des siècles. C'est une histoire marquée à la fois par une évolution interne et par des interactions avec d'autres cultures, donnant naissance à une identité juive unique et durable. C'était le Peretz Center, un carrefour de la culture juive laïque à Vancouver. Un texte de Lynn Weaver, paru le 27 mai 2025 dans La Source.